le journal.
Mathieu Laurent au micro, bonjour à tous. Selon les derniers chiffres de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le bilan du virus Ebola est proche de 5000 morts. Le nombre d'infectés est plus de 13 000. Il ne s'agit pas là de crier victoire, mais de constater les avancées. Médecins sans frontières a en effet confirmé cette semaine un recul du virus Ebola au Libéria, le pays le plus touché, le week-end dernier. Deux tiers des lits dans les centres de traitement étaient vides, selon le ministre de la Santé, ce que ne dément pas Bernadette Gergonne, épidémiologiste à MSF, en poste à Monrovia.
Effectivement, on sent un petit peu un soulagement parmi la population, parmi les gens qui travaillent avec nous dans l'hôpital Ebola, parmi le staff en général. Cependant, tout le monde sait que ça ne va pas forcément durer, qu'il faut rester très très vigilant. On travaille beaucoup sur la promotion de la santé, faire un petit peu comprendre aux gens ce qui se passe dans les hôpitaux Ebola. Les gens ont toujours un petit peu peur, ils ne savent pas trop, est-ce que ce sont des mouroirs, qu'est-ce qui se passe pour les patients à l'intérieur, etc. Donc on essaye toujours d'avoir un maximum de visibilité et de transparence, mais ce n'est pas toujours facile, bien évidemment, parce que c'est quand même un endroit où on doit travailler en isolation, etc. Et les familles sont invitées à venir, à voir leurs relatifs, leurs parents, leurs frères de loin dans l'isolation. Il y a tout un contexte, un contact avec les psychologues, les travailleurs sociaux, pour que les gens sachent qu'à l'intérieur de l'hôpital Ebola, c'est comme un gros hôpital, mais il ne se passe rien de très spécial, sinon qu'on traite les gens en étant habillés et protégés. Mais c'est un fait que pour beaucoup, les gens ont encore peur.
Des propos recueillis par Alison Sargent. Au Yémen, les rebelles chiites étrillent le nouveau cabinet installé il n'y a pas plus de 24 heures en demandant qu'on l'on exclue de cette structure. Les ministres qu'ils estiment incompétents et corrompus, l'ex-président Ali Abdallah Saleh a retiré les siens de ce cabinet et les uns comme les autres rejettent les sanctions imposées par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il n'y a plus de prisonniers américains en Corée du Nord. La Maison-Blanche a envoyé à Pyongyang l'émissaire personnel de Barack Obama. C'est le directeur du renseignement national qui est allé chercher Kenneth Bay et Matthew Todd Miller. Frédéric Jardias nous appelle de Séoul.
C'est une libération qui a pris tout le monde par surprise. Cela faisait 2 ans que Kenneth Bay, un missionnaire évangéliste d'origine sud-coréenne, purgeait sa peine de travaux forcés en Corée du Nord. Le dossier semblait enlisé. Washington accusait le régime de Kim Jong-un d'utiliser ses ressortissants comme des otages politiques et refusait que le dossier n'interfère avec celui du programme nucléaire nord-coréen. Cependant, en se rendant à Pyongyang, le patron des services de renseignement, James Clapper, devient le plus haut responsable américain à se rendre en Corée du Nord depuis 15 ans, une visite qui pourrait signaler un assouplissement de la position des États-Unis vis-à-vis du régime. En Corée du Sud, les observateurs estiment que cette libération est une tentative du Nord pour améliorer son image à l'étranger, alors que plusieurs États membres de l'ONU ont demandé l'ouverture d'une enquête pour crimes contre l'humanité commis par Pyongyang. Un projet de résolution appelle même à poursuivre les dirigeants nord-coréens devant la Cour pénale internationale, une perspective qui affole les diplomates du régime. Si la Corée du Sud s'est félicitée de la libération des deux Américains, elle rappelle que l'un de ses ressortissants croupit toujours dans les geôles nord-coréennes, Kim Jong-wook, un missionnaire évangéliste lui aussi, est détenu au Nord depuis 1 an. Séoul a aussi demandé à Pyongyang d'accepter de nouvelles réunions de familles séparées par la frontière.
Le président américain fait route vers Pékin, où s'ouvre officiellement demain le forum de coopération Asie-Pacifique, l'APEC, et comme toujours, les dossiers épineux se dénouent soit un peu avant, soit un peu après. Ainsi, Tokyo et Pékin auraient-ils trouvé de quoi cesser leur querelle de souveraineté s'agissant d'îlots en mer de Chine orientale? Philippe Reltien.
Une phase de détente commence entre le Japon et la Chine, tombés d'accord à Pékin pour remettre sur les rails leurs relations dégradées depuis la nationalisation des îles Senkaku revendiquées par les deux poids lourds de l'économie régionale. Le dialogue diplomatique a repris au niveau des ministres des Affaires étrangères et bientôt du commerce. Une avancée majeure puisque les contacts ministériels étaient interrompus depuis septembre 2012. Kishida, le ministre japonais des Affaires étrangères, a souligné l'importance que Tokyo accordera au premier entretien entre le président Xi Jinping et le premier ministre japonais Shinzo Abe depuis leur arrivée au pouvoir en 2012. Cette rencontre prévue en marge du sommet de l'APEC, lundi ou mardi à Pékin, n'est pas encore confirmée. Deux communiqués ont annoncé la reprise progressive du dialogue politique, diplomatique, sécuritaire, avec mise en place d'un comité de travail pour élaborer des mécanismes de consultation en cas de crise. Sur les questions de souveraineté territoriale en mer de Chine, côté japonais, on a reconnu que des positions différentes existent, ce qui pour Pékin est déjà vu comme une concession.
D'intenses combats la nuit dernière dans le Donbass, à l'est de l'Ukraine, tirs d'artillerie avant tout aux alentours de l'aéroport de Donetsk. En France, la colère ne retombe pas. Deux semaines après la mort sur le site du chantier du barrage de Sivens dans le Tarn de Rémy Fraisse suite à des tirs de grenades offensives par les gardes mobiles. Le président de la République a promis de faire toute la lumière sur ce drame. En attendant, la disparition tragique de Rémy Fraisse conduit celles et ceux qui condamnent les violences policières à se mobiliser. Ce fut le cas entre autres hier à Toulouse, malgré l'interdiction du cortège. Deux blessés légers parmi les forces de l'ordre, 21 interpellations. Manifestation parisienne suivie cette fois par Anne Lamotte.
Flic, porc, assassin, flic, fasciste, ou alors Pétain revient, t'as oublié tes chiens. La plupart des slogans entendus dans la manifestation parisienne hier sont très virulents contre les forces de l'ordre. Des forces de l'ordre présentes en nombre, et ça ne passe pas. En tout cas, certains manifestants en tête de cortège, très remontés, foulard autour du visage, jettent à plusieurs reprises des projectiles sur des CRS déployés le long du parcours. Il y a quelques gaz lacrymogènes en retour. Un jeune manifestant, une grosse bosse sur la tempe, affirme aussi avoir été injustement frappé.
Et là, en l'occurrence, voilà, ils m'ont claqué la tête par terre, mais vraiment volontairement. C'est-à-dire qu'ils ont pris ma tête et ils l'ont tapée par terre.
Une fois de plus, on constate que le dialogue entre l'État et les citoyens, c'est la violence.
Dans le cortège, on croise Adam, 21 ans, étudiant, excédé.
Quand les citoyens, démocratiquement, par leurs petits moyens, ils essayent de faire entendre leur voix, et bah... Je sais pas, bah on nous envoie les gendarmes pour dialoguer avec nous, on nous envoie des symboles de violence, on nous dit que en gros, si on n'est pas là pour trimer, fermer nos gueules, et ben on est là pour rien, donc voilà.
Des tensions et des coups donc, mais pas d'incident majeur, et au final, pas d'interpellation.
Reportage à Paris, signé Anne Lamotte. Deux mots de la météo du jour. Dégradation du temps par le sud-est, pluies orageuses qui remonteront de la Provence et de l'est du Languedoc vers le Lyonnais.